Radio de la Paix, il est 7 heures.
Le journal de 7 heures, Marthe Kakou.
Nous sommes le mercredi 10 avril 2019. Dans l'immédiat, voici les faits majeurs. Recours en annulation de l'ordonnance d'amnistie de 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Trois organisations des droits de l'homme toujours opposées à cette mesure saisissent la Cour suprême. Les raisons tout à l'heure avec le vice-président de la FIDH. Justement par rapport aux crimes commis contre l'humanité, en 2010-2011, l'on s'interroge sur la suite de l'affaire. Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé après leur acquittement sous condition. En fin de journal, vous aurez l'éclairage du porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah, l'invité de la rédaction. Environnement, la Sodexam annonce de fortes pluies et des vents violents. Dans un instant, la direction de la météorologie donnera des conseils aux populations relativement à l'adoption de bonnes pratiques. L'actualité hors des frontières ivoiriennes nous conduira sur l'axe Fadapama à l'est du Burkina Faso où deux militaires ont été blessés dans un attentat à la mine. Et après l'actualité internationale, suivra la revue des titres de vos journaux avec Jean-Claude Comé. Bonjour à tous. Des organisations des droits de l'homme sont toujours opposées à l'ordonnance du 6 août 2018. Amnistiant 800 personnes, dont Simone Gbagbo, qui sont poursuivies pour leur responsabilité présumée dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. C'est le cas de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, puis du MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains. Le jeudi 4 avril dernier, ces trois ONG ont saisi la Cour suprême pour, disent-elles, demander l'annulation de cette ordonnance signée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les raisons de la requête sont expliquées ici par Maître Traoré Drissa, avocat au barreau ivoirien, par ailleurs vice-président de la FIDH. On écoute Maître Traoré Drissa.
Ce que prévoit notre constitution, c'est que l'amnistie ne peut être prise que par l'Assemblée nationale. Mais dans ce cadre-là, c'est le chef de l'État seul qui a pris et cela n'est pas de son pouvoir. Pour nous, cette ordonnance est illégale. Parce qu'avant que le chef de l'État ne prenne une ordonnance, il devrait être habilité par l'Assemblée nationale à prendre une ordonnance. Lorsqu'il est habilité, après, l'Assemblée nationale ratifie. Mais dès l'instant où, pour nous, la base n'a pas été respectée, même une loi de ratification plus tard ne peut pas venir effacer l'illégalité. Et donc, le 4 avril, nous avons déposé notre requête au fin d'annulation de l'ordonnance d'amnistie devant la chambre administrative de la Cour suprême. Nous estimons que pour avoir une paix durable, pour avoir une réconciliation sincère, il faut que les personnes qui ont commis des actes graves, que leurs responsabilités au moins soient reconnues pour que les victimes sachent ce qui s'est réellement passé et puis passer à autre chose.
Pour vous, faut-il remettre en prison ceux qui ont été libérés ?
Poursuivre quelqu'un n'est pas obligatoirement de l'arrêter et de le mettre en prison. Mais nous pensons qu'il faut laisser la justice faire son travail.
C'était Maître Traoré Drissa, vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Il a été joint par Soro Adams. Il convient de noter que l'amnistie efface totalement et à jamais les infractions et la condamnation d'une personne et entraîne l'oubli. En outre, l'amnistie ne doit pas être confondue avec la grâce qui est le droit d'annuler ou de modifier une peine. Et ce droit est confié en général par la justice à la plus haute instance politique du pays. Exemple, la grâce présidentielle qui n'entraîne que la non-mise à exécution de la peine ou la modification d'une peine et qui s'apparente à un pardon. La violence électorale, notamment au cœur d'un atelier organisé par le Centre national de coordination de mécanismes de réponse rapide à l'alerte précoce en collaboration avec le National Democratic Institute et l'USAID. La rencontre de deux jours à Abidjan vise à anticiper et à prévenir toutes les menaces sur la paix et la sécurité nationale. Jean-Claude Mabéa était hier à la cérémonie d'ouverture. Suivons son compte-rendu.
Le directeur du Centre national de coordination de mécanismes de réponse rapide à l'alerte précoce a situé l'objectif de cet atelier. Yoma Ekanza Gabriel.
L'atelier s'adresse à tous ceux qui travaillent dans l'alerte et dans la mise en œuvre des réponses à ces alertes. Et donc, c'est pour mettre ensemble ces personnes-là, ces structures-là, afin que nous puissions coordonner nos actions et réaliser l'objectif que nous voulons atteindre.
Cet atelier bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers tels que le NDI. Kevin Ademayapor, son directeur résident.
Vous savez tous que la Côte d'Ivoire fait face à des enjeux importants, notamment les élections en 2020, mais également toutes sortes de menaces qui pèsent sur la cohésion sociale, la réconciliation nationale, le développement économique. Donc il est important que nous puissions renforcer les résiliences des différentes parties prenantes à faire face à ces enjeux.
Invité spécial à cet atelier, le président du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire s'est adressé aux initiateurs et participants en ces termes. Désiré Amotanoué.
Nous ne doutons pas que l'initiative qui a été prise sera couronnée de succès et nous ferons en sorte que cette paix que nous avons si durement reconquise soit préservée, notamment les grandes échéance électorale 2020. Recevez tous nos encouragements et sachez que nous sommes à vos côtés.
Opérationnel depuis le 28 février 2018, le Centre national de coordination de mécanismes de réponse rapide à l'alerte précoce est né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juillet 2014.
Un mot sur les cérémonies commémoratives des 73 ans du PDCIRDA, l'occasion pour les responsables et les membres du doyen des partis en Côte d'Ivoire d'évaluer leur parcours afin de repartir sur de nouvelles bases à travers le thème suivant, le PDCIRDA hier, aujourd'hui et toujours. Reportage signé Bonikabi.
Sur ce, je déclare ouvertes les festivités marquant le 73e anniversaire du PDCIRDA.
En déclarant l'ouverture des festivités des 73 ans d'existence du plus vieux parti, le PDCIRDA, qu'il dirige depuis un quart de siècle, le président Henri Konan Bédié a rappelé ceci.
La stabilité obtenue après l'endiguement de ces mouvements précités, le PDCIRDA poursuit sa marche harmonieuse vers la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020.
Puis le président de ce parti a félicité ses militants en ces termes.
Je vous invite à la détermination sur le terrain. Ne baissez pas les bras, car ces mouvements n'ont d'autre but que d'affaiblir et même de liquider notre instrument politique qui nous a été légué par Félix Houphouët-Boigny.
Kakou Dikawe, le secrétaire exécutif en chef, n'a pas manqué ce rendez-vous. Il a annoncé cette nouvelle qu'il a qualifiée de bonne.
La bonne nouvelle d'un PDCIRDA revigoré avec ses 338 délégués encadrant un personnel politique d'environ 600 000 personnes en marche vers son objectif fondamental dont personne ne pourra le détourner.
Trois ex-ministres revenus au sein de leur parti ont été décorés à l'ordre du commandeur en présence de 23 partis politiques de l'opposition invités à cette 73e anniversaire du PDCIRDA.
À noter aussi la visite officielle aujourd'hui à Abidjan du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, sera accueilli ce soir aux environs de 21h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La saison des pluies 2019 est annoncée avec de fortes pluies et des vents violents, toute chose qui confirme une hausse de la pluviométrie à 5% par rapport à celle de l'année dernière. À cet effet, la direction de la météorologie conseille aux populations d'adopter de bonnes pratiques et d'éviter les zones à risque. Daouda Konati est le directeur de la météorologie à la Sodexam.
Nous avons publié une note d'information sur les perspectives climatiques pour la saison des pluies 2019. Effectivement, dans la période de mars, avril, mai, on va avoir une pluviométrie excédentaire à hauteur de 5% par rapport à l'année 2018 et environ 1% dans la zone littorale par rapport à toujours à l'année 2018. Cependant, il faut dire que ces valeurs sont excédentaires par rapport à la moyenne sur 30 ans que nous avons pu observer.
Monsieur le directeur, certaines informations font état d'inondations dans certains quartiers d'Abidjan dans les jours à venir. Le confirmez-vous?
Non, je ne peux pas confirmer qu'il y aura une inondation. L'inondation est combinée de plusieurs facteurs. Ce que nous disons, c'est qu'il va y avoir pour une période de 3 mois, avril, mai, juin, des pluies excédentaires à un certain pourcentage. Mais on ne peut pas présager, anticiper sur des inondations. Les populations doivent se mettre à l'abri, doivent écouter les messages de sensibilisation du gouvernement pour pouvoir d'abord se protéger, quitter les zones à risque, ne pas déverser dans les exutoires des déchets qui vont boucher l'évacuation des eaux. Donc, des actions de sensibilisation sont en cours par le gouvernement depuis le mois de février, en liaison avec le comité interministériel de gestion des crises, des catastrophes, dont la SODES en fait partie, et plusieurs autres acteurs.
Propos de Daouda Konaté, directeur de la météorologie à la SODEXAM, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Daouda Konaté répondait à Désiré Gapiena Ouattara. Enseignement supérieur et recherche scientifique. La tutelle était en sciences de travail à l'université Péléforo, Gonc-Libali de Korogo. Le ministre Albert Touakeus Mabri a saisi l'opportunité pour toucher du doigt la question relative aux revendications du corps enseignant, puis pour annoncer l'ouverture prochaine de résidences universitaires. Nous l'écoutons.
Je demande que le travail se poursuive au niveau de Korogo, que le travail se poursuive au niveau des enseignants, qu'il n'y ait pas d'interruption de cours et que nous fassions en sorte que ce qui se fait déjà ici puisse continuer. Il n'aura aucun débat tabou, nous discuterons de tout et s'il faut vous revoir vous-même, nous le ferons. Donc je souhaite que ceux qui représentent les enseignants ici puissent porter cela à l'attention de leurs collègues, notamment des leaders syndicaux. En ce qui concerne les étudiants, ce que nous souhaitons, c'est d'offrir le meilleur. Vous devez avoir les mêmes commodités, les mêmes droits que ceux de Boaké, que ceux d'Abidjan, que ceux de Yamoussoukro. Évidemment, ça demande des moyens, bien sûr, mais ça demande du temps. C'est pour cela que vous devez aller progressivement. Vous savez, j'ai visité les bâtiments. Il y a encore des détails à régler pour ne pas que vous rentriez et que les problèmes nous rattrapent. Tout le monde n'aura pas évidemment un lit, mais nous avons l'ambition de continuer et certainement le site de l'aéroport qui n'est pas loin pourra avoir une résidence plus grande qui ne prendra pas que les étudiants de l'Institut agropastoral mais aussi les autres étudiants de l'Université Péléphore Gonc-Coulibaly.
Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire a tenu récemment un séminaire de bureau en prélude au séminaire national. La réunion a eu lieu au lycée des jeunes filles de Boaké. L'objectif étant de réfléchir sur les stratégies de mobilisation et de remobilisation des gestionnaires des lycées et collèges autour de l'école ivoirienne. Plus de détails avec Koulibaly Souleymane, président de l'association des chefs d'établissement et adjoint du secondaire de Côte d'Ivoire.
Nous sommes venus à l'occasion du séminaire de bureau pour réfléchir sur l'avenir des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire. Alors, notre travail va consister à montrer les contributions que les chefs d'établissement doivent avoir pour que le système éducatif reste toujours performant. Mais en plus de cela, il faut réfléchir sur les mesures institutionnelles, financières, matérielles et humaines pour que le chef d'établissement soit beaucoup plus fort pour mener son travail. En d'autres termes, notre travail parle essentiellement de notre profil de carrière. Le chef d'établissement étant la cheville ouvrière du système éducatif, il y a des moyens qu'on doit mettre à sa disposition pour jouer véritablement ce rôle. Donc parmi ces moyens, bien entendu, il y a l'aspect financier qui peut entrer en ligne de compte, mais il y a l'aspect aussi institutionnel. Il faut que nous soyons protégés. Donc c'est un ensemble d'éléments. Ce n'est pas une revendication comme vous l'entendez, mais en tout cas c'est une contribution pour faire en sorte que l'école reste toujours debout. Et je pense que l'école va fonctionner jusqu'à son terme, surtout que les examens de fin d'année commencent déjà avec les épreuves physiques. Alors, nous pensons que la sérénité est venue, il faut saluer tous les acteurs.
Koulibaly Souleymane, président de l'Association des chefs d'établissement et adjoint du secondaire de Côte d'Ivoire. On prend la direction du Burkina Faso. Deux militaires de l'armée nationale ont été légèrement blessés hier matin sur l'axe Fadangourma-Pama après le passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé. C'est ce qu'a appris l'agence d'information du Burkina Faso de sources locales. Une autre équipe des forces de défense et de sécurité est tombée dans une embuscade tendue par des individus armés non identifiés sur le même axe. On enchaîne avec la revue des titres de vos quotidiens et c'est Jean-Claude Comte Koné qui a fait ce matin le tour des kiosques. Il vient juste d'entrer en studio. Bienvenue Jean-Claude.
Merci Marthe. Bonjour à tous. C'est un pas supplémentaire dans le renforcement de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en visite officielle à Abidjan aujourd'hui, annonce Fatente Matin, qui sur le plan politique revient sur la célébration des 73 ans du PDCI et affiche « Bédié mobilise ses troupes ». Maison du parti à Cocody, comment les 73 ans du PDCI ont été commémorés hier, relate l'intelligent d'Abidjan. Les militants ont fait bloc hier autour de Nzueba, rapporte le quotidien d'Abidjan. Et morceau choisi des propos des intervenants, notamment du président Henri Konan Bédié, à la une du Nouveau Réveil, le PDCI est un esprit. Cet esprit n'est ni à plagier ni à pirater. Relayant ces mêmes propos du président du PDCI RDA, l'Inter et Soir Info estime pour le premier que Bédié tacle d'un camp Hachi et Amisha et envoie un message au président Ouattara quand le second prévient que le PDCI se dote d'un nouvel outil de combat et estime que Bédié allume les dissidents. Ne nous laissons intimider par personne, c'est le message de Bédié aux militants du PDCI qui capte l'attention de notre voix quand le patriote estime que celui-ci, le président Bédié, se cache derrière la réalité alors que son parti se vide chaque jour. C'est le même décryptage que font l'expression qui écrit ce son 13e anniversaire célébré sur fond de désunion et le mandat qui parle de célébration sur des ruines. Le jour plus qui à propos de ces 73 ans du PDCI a fait réagir l'écrivain Frédéric Gramel s'intéresse aussi aux activités du RHDP avec cette déclaration d'Evariste Miambli, député de Fakoubli, qui estime que le président Ouattara est un espoir. Depuis Fakoubli, Miambli affirme, le peuple ouais va rebaptiser Ouattara. C'est ce qu'affiche pour sa part Soir Info. Justement, ce nom, l'intelligent d'Abidjan le révèle à sa une et écrit, avec Ouattara Guayou, et tout est bouclé dans le guémon. Faisons bloc autour du président Ouattara, c'est l'appel à la une du patriote du docteur Soumaoro Youssouf du mouvement Horizon RHDP. Celui-ci galvanise le Sud Comoé pour l'élection de 2020, écrit l'expression autre partie le FPI à propos de la crise en son sein. À lire à la une de l'Inter, Kwaku Kra, proche d'Afinguessan, qui répond à Soadou. Et puis culture, marche, hommage au père des lettres ivoiriennes, une vibrante procession pour Bernard Blindadier. Les témoignages émouvants des écrivains affichent le temps.
Jean-Claude Comé qui reviendra à 8h pour le même exercice. On en vient à l'invité de la rédaction qui est le porte-parole de la Cour pénale internationale. Fadi El Abdallah donne des informations sur la suite de l'affaire. Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Bleu Goudé, ils ont été acquittés le mardi 15 janvier dernier par la CPI et remis en liberté sous condition. 3 mois environ après cette décision, que fera la procureure Fatou Bensouda? Que va faire maître Paulina Massida, l'avocate des victimes? À ces questions que certains d'entre vous se pose. Voici l'éclairage de Fadi El Abdallah qui a été joint depuis La Haye au siège de la CPI aux Pays-Bas par Soro Adams. Un entretien à suivre immédiatement.
Bonjour monsieur Fadi El Abdallah.
Bonjour monsieur.
Depuis l'acquittement puis la libération sous condition de Laurent Gbagbo et de Charles Bleu Goudé, c'est le silence total et bien des victimes se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils sont en droit de retenir et de savoir aujourd'hui?
Il faut comprendre que les juges ont rendu une décision orale d'acquittement, mais qu'il faut une version écrite avec tout le raisonnement et l'évaluation des éléments de preuve qui l'ont conduit à ce résultat-là. Or, la préparation, l'écriture, la révision, etc., de ce genre de décision qui peut atteindre dans certains cas plusieurs centaines de pages, ça prend du temps. Donc, nous sommes dans cette période où nous attendons la version écrite de la décision d'acquittement de la part des juges de la chambre de première instance. Et sur la base de ce document-là, Madame le procureur pourra décider d'interjeter appel ou pas contre la décision d'acquittement. Donc, on est dans cette phase-là maintenant.
Mais les juges ne sont pas tenus par un délai pour rendre ce rapport écrit?
non, il n'y a pas un délai préétabli pour rendre la décision par écrit. Vous savez que les différentes affaires peuvent avoir des différents besoins. Donc, cela dépend de la complexité de l'affaire, du nombre de charges retenues, du nombre des éléments de preuve qui ont été présentés, etc. Donc, le statut de Rome n'a pas indiqué un délai préétabli pour ces décisions-là. C'est laissé pour les juges pour décider. Et les juges travaillent naturellement pour rendre ces décisions dans les meilleurs délais, tenant compte des éléments spécifiques à chaque affaire.
Et dans l'attente, qu'est-ce que vous dites aux victimes? Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens?
Ben, il faudra noter tout simplement qu'il y a une décision d'acquittement qui a été déjà rendue et sur cette base-là, il y a eu une mise en liberté des deux personnes qui étaient accusées, mais que l'affaire pourra, si Madame le procureur considère que c'est ce qu'il faut faire, pourra être présentée devant la chambre d'appel qui, dans ce cas-là, rendra la décision à propos de cette affaire. Pour le moment, et il faut attendre la réponse écrite des juges sur la base de laquelle d'autres étapes pourront ou pas suivre.
Alors, M. Fadi El Abdallah, libéré sous condition, le président Laurent Gbagbo est en ce moment en Belgique. Quant à Charles Blé Goudé, il serait toujours dans un hôtel en Hollande. Vous le confirmez?
Oui, monsieur Blé Goudé est toujours aux Pays-Bas comme une mesure intérimaire ou provisoire dans l'attente de la conclusion d'un accord avec un État qui pourra l'accueillir dans une perspective de plus long terme.
Alors, ça veut dire quoi concrètement pour l'OMA? Aucun pays n'est prêt à l'accueillir?
Pour le moment, nous sommes en contact avec plusieurs États pour vérifier s'ils auront la possibilité de l'accueillir et de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les conditions qui ont été indiquées par la Chambre.
Et qu'est-ce que les pays contactés vous disent pour le moment?
Pour le moment, il n'y a pas d'accord qui est conclu et naturellement, je ne pourrais pas révéler davantage en ce moment-là.
Et pendant ce temps, Blé Goudé à l'hôtel qui paye?
C'est la CPI qui prend ça en charge pour le moment.
Et qui sera remboursé?
La Cour, vous voulez dire?
Oui, est-ce que la CPI sera remboursée pour ses frais? Quel pays?
C'est une question qui est... Il n'est pas encore temps de parler de cette question-là, mais pour le moment, il n'est pas question de remboursement.
Je vous remercie, M. Fadi El Abdallah.
Je vous en prie.
Et bonne journée.
À vous pareillement. Au revoir.
À l'invité du jour est le porte-parole de la CPI, la Cour pénale internationale. Il se prêtait aux questions de Soro Adams. Et pour clore le rappel de l'essentiel. Renforcement de la coopération ivoiro-égyptienne. Le président de la République arabe d'Égypte est attendu aujourd'hui à Abidjan pour une visite officielle. Abdel Fattah al-Sissi sera accueilli dans la soirée par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Recours en annulation de l'ordonnance d'amnistie de 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Trois organisations des droits de l'homme toujours opposées à cette mesure saisissent la Chambre administrative de la Cour suprême pour faire annuler cette ordonnance. C'est ce qu'a indiqué le vice-président de la FIDH. Le PDCI-RDA, le doyen des partis politiques en Côte d'Ivoire, a célébré hier à Abidjan ses 73 ans d'existence, né en 1946. Cette formation politique affiche sa volonté de reconquérir le pouvoir en 2020. Environnement, la Sodexam annonce de fortes pluies et des vents violents. Vous avez eu les conseils du directeur de la météorologie, Daouda Akonati. Actualité hors des frontières ivoiriennes. L'axe Fada-Pama à l'est du Burkina Faso a été l'objet d'une attaque de deux militaires qui ont été blessés dans un attentat à la mine.